Livre cinquième, chapitre 1. À peine guéri de ses deux blessures, Wilhelm en avait donc reçu une troisième, qui lui était assez incommode. Aurélie ne voulut pas souffrir qu'il se servît d'un chirurgien, elle le pensait elle-même, accompagnant ses soins de discours, de sentences et de cérémonies bizarres, et le mettant par là dans une fort pénible situation. Au reste, ce n'était pas lui seul, mais toutes les personnes qui approchaient d'elle, qu'elle faisait souffrir, par son inquiétude et ses singularités. Mais nul n'en souffrait plus que le petit Félix. Sous une pareille contrainte, l'enfant, très vif, était d'une extrême impatience, et se montrait toujours plus mutin à mesure qu'elle le tensait et le redressait davantage. Il se plaisait à certaines singularités que l'on a aussi coutume d'appeler « mauvaises manières » et qu'Aurélie n'entendait nullement lui passer. Il buvait, par exemple, plus volontiers à la bouteille que dans son verre et paraissait trouver meilleur goût à ce qu'il prenait dans le plat qu'à ce qu'on lui servait sur son assiette. Ses mauvaises habitudes n'étaient point tolérées et quand il laissait les portes ouvertes ou les fermait avec fracas, quand on lui donnait un ordre et qu'il ne bougeait pas de la place ou s'enfuyait brusquement, il lui fallait écouter une longue réprimande, sans qu'il fît paraître ensuite aucune trace d'amendement. Au contraire, son affection pour Aurélie semblait diminuer de jour en jour. Il n'y avait dans sa voix rien de tendre lorsqu'il disait « ma mère ». En revanche, il aimait passionnément sa vieille bonne, qui lui passait toutes ses volontés. Mais depuis quelque temps, elle se trouvait si malade qu'on avait dû la transporter hors de la maison, dans un logement tranquille. Et Félix se serait vu tout seul, si Mignon n'était devenu son ange tutélaire. Les deux enfants jouaient ensemble le plus joliment du monde. Elle lui apprenait de petites chansons, et lui, qui avait une bonne mémoire, il les récitait souvent, à la grande surprise des auditeurs. Elle voulut aussi lui expliquer les cartes géographiques, dont elle était toujours fort occupée. Mais elle ne procédait pas avec la meilleure méthode, et la seule chose qui parut l'intéresser dans les divers pays était leur température, froide ou chaude. Elle savait fort bien rendre compte des pôles du monde, de leurs horribles glaces, et comme la chaleur augmente à mesure qu'on s'en éloigne. Quelqu'un allait-il en voyage, elle demandait uniquement s'il allait au nord ou au midi, et tâchait de trouver le chemin du voyageur sur ses petites cartes. Quand Wilhelm parlait de voyage, son attention était plus vive, et elle semblait toujours chagrine, aussitôt que la conversation changeait de sujet. On ne pouvait la décider à se charger d'un rôle, ou même à paraître sur la scène, mais elle apprenait volontiers, et avec zèle, des odes et des chansons, et surprenait tout le monde lorsqu'elle venait à déclamer soudain quelqu'une de ses poésies, le plus souvent d'un genre sérieux et solennel. Serlot, qui avait l'habitude d'observer chaque trace d'un talent dans son germe, cherchait à l'encourager. Mais ce qui lui plaisait surtout chez elle, c'était l'agrément, la variété, et quelquefois même la gaieté de son chant. Le joueur de harpe avait déjà gagné sa faveur par le même moyen. Sans avoir lui-même le génie de la musique et sans jouer d'aucun instrument, Serlot savait apprécier la haute importance de cet art. Il recherchait aussi souvent que possible cette jouissance qui ne se peut comparer à aucune autre. Il avait toutes les semaines un concert. Et maintenant, avec Mignon, le joueur de harpe et Laerte, habile sur le violon, il s'était composé chez lui un petit orchestre assez original. Il disait souvent « L'homme est si disposé à s'occuper des choses les plus vulgaires, son esprit et ses sens s'émoussent si aisément pour les impressions de la beauté et de la perfection, que l'on devrait entretenir chez soi, par tous les moyens, la faculté de les sentir. Nul ne peut se passer tout à fait de ces jouissances, et c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de quelque noble plaisir que tant de gens trouvent de l'agrément à des pauvretés et des sottises, pourvu qu'elles soient nouvelles. Il faudrait du moins, disait-il, entendre tous les jours un chant agréable, lire de bons vers, voir une belle peinture, et, s'il était possible, dire quelques paroles raisonnables. Avec ces dispositions qui lui étaient en quelque sorte naturelles, Serlot ne pouvait manquer d'offrir aux personnes qui l'entouraient d'agréables divertissements. Au milieu de cette douce existence, Willem reçut un jour une lettre cachetée de noir. Le cachet de Werner présageait une triste nouvelle, et Willem fut bouleversé en apprenant la mort de son père, qu'on lui annonçait en quelques mots. Il avait succombé après une courte et soudaine maladie, et il laissait ses affaires dans un ordre parfait. Cette nouvelle inattendue blessa Wilhelm au fond du cœur. Il sentit vivement avec quelle indifférence on néglige souvent ses amis et ses proches, aussi longtemps qu'ils jouissent avec nous de la demeure terrestre, et comme on ne sait regretter sa négligence qu'après que ses doux liens sont rompus, du moins pour cette fois. La douleur que fit éprouver à Wilhelm la prompte mort du brave homme fut cependant allégée par le sentiment que son père avait peu aimé dans ce monde et par la persuasion qu'il avait eu peu de jouissance. Les pensées de Wilhelm se tournèrent ensuite sur sa propre situation et il ne sentit pas une médiocre inquiétude. L'homme ne peut être placé dans une position plus dangereuse que lorsqu'il éprouve un grand changement d'état par l'effet des circonstances extérieures, sans que sa manière de sentir et de penser y soit préparée. Les choses sont changées, et nous ne le sommes pas, et il en résulte une contradiction d'autant plus grande que l'homme remarque moins qu'il n'est pas encore préparé pour son nouvel état. Wilhelm se voyait libre au moment où il ne pouvait encore s'entendre avec lui-même. Ses sentiments étaient nobles, ses vues étaient pures, et ses projets ne semblaient point condamnables. Il s'avouait tout cela avec quelque confiance, mais il avait eu assez d'occasions de remarquer qu'il manquait d'expérience, et il attachait par conséquent une valeur exagérée à l'expérience des autres, aux résultats qu'ils en tiraient avec conviction. Et, par là, il s'égarait de plus en plus. Ce qui lui manquait, il crut que le moyen le plus prompt de l'acquérir était de s'attacher à rassembler et à retenir tout ce qui pouvait s'offrir à lui de remarquable dans les livres et dans la conversation. Il entreprit donc de mettre par écrit les opinions et les idées d'autrui et les siennes, même des conversations tout entières qu'il jugeait intéressantes. Malheureusement, par cette méthode, il retenait le faux aussi bien que le vrai. Il s'attachait beaucoup trop longtemps à une seule idée, on pourrait dire à une seule sentence, et par là, renonçait souvent à sa manière naturelle de penser et d'agir, pour suivre, comme des astres conducteurs, des clartés étrangères. L'amertume d'Aurélie et le froid mépris de la Herte pour les hommes n'égarèrent que trop son jugement. Mais personne n'avait été plus dangereux pour lui que Jarno, dont l'esprit lumineux portait sur les choses présentes un jugement juste et sévère, mais qui avait le défaut d'exprimer ses observations particulières sous forme de maximes générales, tandis que les jugements de l'esprit ne conviennent qu'à un seul cas rigoureusement déterminé, et deviennent faux lorsqu'on les applique au cas le plus voisin. Ainsi, Wilhelm, en aspirant à se mettre d'accord avec lui-même, s'éloignait toujours davantage de cette unité salutaire. Et, dans ce désordre, il fut bien plus facile à ses passions de tourner tous ses préparatifs à leur avantage et de l'abuser toujours plus sur le parti qu'il devait prendre. Serlot profita de la funèbre nouvelle, et véritablement, il avait plus sujet chaque jour de penser à réformer son théâtre. Il lui fallait renouveler ses anciens engagements, à quoi il était peu disposé, parce que la plupart des artistes, se croyant indispensables, devenait plus insupportable de jour en jour. Ou bien il devait, et c'est à quoi tendaient ses désirs, donner à la troupe une forme toute nouvelle. Sans presser lui-même notre ami, il fit agir Aurélie et Philine. Les autres comédiens, qui soupiraient après un engagement, ne lui laissaient non plus aucun repos, en sorte qu'il se voyait, avec assez d'embarras, en présence de deux chemins. Qui aurait pensé qu'une lettre de Werner, écrite dans un sens tout opposé, le pousserait enfin à prendre une résolution. Nous la citerons presque sans changement, en nous bornant à supprimer les premières lignes. Chapitre 2. Il en fut toujours ainsi, et c'est apparemment la bonne règle, que chacun, en chaque occasion, s'occupe de son affaire et déploie son activité. À peine le bon vieillard eut-il cessé de vivre, que dès le premier quart d'heure, rien n'allait plus dans la maison selon ses idées. Amis, parents, connaissances arrivaient en foule, et particulièrement les gens de toutes sortes qui ont quelque chose à gagner en pareilles circonstances. On portait, on traînait, on comptait, on écrivait et l'on calculait. Les uns allaient quérir du vin et des gâteaux, les autres mangeaient et buvaient. Mais je ne voyais personne plus sérieusement occupé que les femmes, qui choisissaient le deuil. Tu me pardonneras donc, mon cher ami, si dans cette circonstance j'ai aussi songé à mon intérêt. Si je me suis montré aussi officieux, aussi actif que possible à l'égard de ta sœur, et lui ai fait comprendre, dès que la bienséance a semblé le permettre, que notre souci devait être maintenant d'accélérer notre union, retardée jusque-là par les lenteurs infinies de nos pères. Mais ne va pas croire que nous ayons songé à prendre possession de la grande maison vide. Nous sommes plus modestes et plus raisonnables. Voici notre plan. Le nouveau ménage s'établira tout de suite dans notre maison, et ta mère elle-même y suivra sa fille. Cela peut-il se faire, vas-tu dire? À peine avez-vous place vous-même dans le nid. Un arrangement habile rend tout possible, et tu ne saurais croire combien de place on trouve quand on a besoin de peu d'espace. Nous vendrons la grande maison, une bonne occasion se présente tout de suite. L'argent qui en proviendra rapportera le centuple. J'espère que tu consentiras, et je désire que tu n'aies pas hérité des infructueuses fantaisies de ton père et de ton grand-père. L'un mettait sa félicité suprême dans un certain nombre d'œuvres d'art sans apparence, dont personne, j'ose le dire, n'était capable de jouir avec lui. L'autre vivait au milieu d'un ameublement magnifique dont il ne permettait la jouissance à personne. Nous suivrons d'autres voies, et j'espère avoir ton assentiment. Il est vrai que je n'aurai moi-même, dans toute notre maison, d'autre place que mon siège à mon pupitre, et que je ne vois pas encore où l'on pourra placer un berceau. Mais, en revanche, au dehors, la place est grande. Le café et les clubs pour le mari, les promenades à pied et en voiture pour madame, et à la campagne, les jolis jardins de plaisance pour tous deux. Le plus grand avantage encore, c'est que notre table ronde sera toute garnie, et que notre père ne pourra plus y faire asseoir des amis, d'autant plus disposé à se moquer de lui qu'il s'est donné plus de peine pour les recevoir. Mais rien de superflu dans la maison. Pas trop de meubles et d'ustensiles, point de voiture ni de chevaux. Rien que de l'argent, et nous faisons raisonnablement chaque jour ce qui nous plaît. Point de garde-robe, on porte toujours sur soi ce qu'on a de meilleur et de plus beau. Le mari peut user son habit et la femme vendre sa robe aussitôt qu'elle n'est plus à la mode. Rien ne m'est plus insupportable que ces amas de vieilles friperies. Si l'on m'offrait la plus précieuse bague, à condition de l'avoir toujours au doigt, je ne l'accepterais pas. Qui peut en effet trouver le moindre plaisir dans un capital mort? Voici donc ma joyeuse profession de foi. Faire ses affaires, gagner de l'argent, se divertir avec les siens et ne s'inquiéter des autres qu'autant qu'on peut s'en servir. Mais, vas-tu dire, dans votre beau plan, avez-vous pensé à moi? Où logerai-je si vous me vendez la maison paternelle et s'il ne reste pas la moindre place dans la vôtre ?
C'est là sans doute le point essentiel, mon petit frère, et je te donnerai là-dessus des explications nécessaires, aussitôt que je t'aurai décerné les éloges que tu mérites pour le merveilleux emploi que tu as fait de ton temps. Dis-moi, je te prie, comment tu as fait pour devenir en quelques semaines connaisseur en tout ce qu'il y a de choses utiles et intéressantes. Je te sais une grande capacité, mais je ne t'aurais pas supposé si attentif et si appliqué. Ton journal nous a prouvé avec quel profit tu voyages. La description des forges de fer et de cuivre est excellente et prouve une grande intelligence des choses. Je les ai aussi visitées autrefois, mais comparée à la tienne, ma relation paraît l'œuvre d'un écolier. Tout ce que tu dis sur la fabrication de la toile est très instructif, et ton observation sur la concurrence est d'une parfaite justesse. Ça et là, tu as fait dans les additions quelques erreurs, qui sont d'ailleurs fort excusables. Mais ce qui nous a fait le plus grand plaisir, à mon père et à moi, ce sont tes vues solides sur l'économie domestique, et particulièrement sur l'amélioration des terres. Nous avons l'espérance d'acheter, dans un pays très fertile, un grand domaine, maintenant en séquestre. Nous y appliquerons la somme que produira la vente de votre maison. Une partie sera empruntée, une partie laissée en hypothèque, et nous comptons sur toi pour t'établir dans le domaine et présider aux améliorations. En quelques années, la propriété vaudra, pour ne pas trop dire, un tiers de plus. On la revend, on en cherche une plus grande, on l'améliore et on la revend aussi. Tu es pour cela l'homme qu'il nous faut. Pendant ce temps, nos plumes ne resteront pas oisives au logis, et bientôt nous serons en état de faire envie. Maintenant, adieu. Jouis de la vie en voyage et va où tu espères trouver plaisir et profit. Avant 6 mois d'ici, nous n'avons pas besoin de toi. Tu peux donc courir le monde à ton gré. C'est en voyageant qu'un homme habile se forme le mieux. Adieu. Je me félicite, étant si étroitement uni avec toi, de l'être aussi désormais par l'esprit d'activité. Cette lettre, si bien écrite et si remplie de vérité en matière d'économie, déplut cependant à Willem de plus d'une façon. Les éloges qu'il recevait pour ses connaissances supposées en statistique, en technologie et en économie rurale étaient pour lui de secrets reproches, et l'idéal que son beau-frère lui traçait du bonheur de la vie bourgeoise ne le séduisait nullement. Un secret esprit de contradiction le poussait au contraire vivement du côté opposé. Il se persuada que le théâtre seul pourrait lui procurer tout le développement qu'il désirait, et il parut d'autant plus affermi dans sa résolution que Werner s'y était opposé plus vivement, sans le savoir. Là-dessus, il rassembla tous ses arguments et il s'attacha à ses idées, à proportion qu'il croyait avoir plus de motifs pour les présenter au sage Werner sous un jour favorable. Ainsi fut écrite la réponse que nous allons mettre aussi sous les yeux du lecteur. Chapitre 3. Ta lettre est si bien écrite, si finement et si sagement pensée, qu'on n'y saurait rien ajouter. Mais tu me permettras de te dire qu'on pourrait penser, soutenir et faire le contraire, et cependant avoir aussi raison. Tes idées, tes vues, tendent à posséder des richesses infinies et à mener une facile et joyeuse vie. À peine ai-je besoin de te dire que je ne puis trouver là rien qui me tente. D'abord, j'ai le regret de t'avouer que j'ai écrit mon journal par nécessité, pour être agréable à mon père, avec le secours d'un ami et d'une foule de livres. Et que je sais, il est vrai, les choses que cet écrit renferme et bien d'autres du même genre, mais ne les entends point et ne me soucie nullement de m'en occuper. Que m'importe de fabriquer de bons fers si mon cœur est plein de scories? Que me sert de mettre en ordre un domaine si je suis toujours en désaccord avec moi? Pour te le dire, en un mot, me développer moi-même tel que m'a fait la nature, fut vaguement, dès mes jeunes années, mon désir et mon dessein. Je nourris encore les mêmes sentiments, mais j'ai une idée un peu plus claire des moyens qui me rendront le succès possible. J'ai vu plus de monde que tu ne crois, et j'en ai mieux profité que tu ne penses. Prête donc quelque attention à mes paroles. Quand même, elles ne s'accorderaient pas tout à fait avec tes vues. Si j'étais gentilhomme, notre discussion serait bientôt terminée. Mais, comme je ne suis qu'un bourgeois, il faut que je suive une voie particulière, et je souhaite que tu veuilles bien me comprendre. Je ne sais ce qu'il en est des pays étrangers, mais en Allemagne, un noble peut seul parvenir à une culture personnelle de quelque étendue. Un bourgeois peut acquérir du mérite, et tout au plus cultiver son esprit, mais quoi qu'il puisse faire, sa personne s'efface complètement. Le gentilhomme, qui fréquente le monde de la plus haute distinction, étant tenu de prendre lui-même des manières distinguées, et cette distinction devenant, chez un homme à qui toutes les portes sont ouvertes, un air libre et naturel, car il doit payer de sa figure et de sa personne, que ce soit à la cour ou à l'armée. Il a des motifs pour s'estimer lui-même et pour montrer qu'il s'estime. Une certaine grâce imposante dans les choses ordinaires, une sorte d'élégance légère dans les choses graves et importantes, lui sied fort bien, parce qu'il fait voir qu'il se trouve partout en équilibre. Le noble est un personnage public, et plus ses gestes sont élégants, sa voix sonore, toutes ses manières dignes et mesurées, plus il est accompli. S'il reste toujours le même avec les grands et les petits, avec ses amis et ses parents, on n'a rien à reprendre en lui. On n'a pas le droit de désirer autre chose. Qu'il soit froid, mais sensé, dissimulé, mais prudent. Pourvu qu'il sache se posséder dans chaque circonstance de sa vie, personne ne peut lui demander davantage. Et tout ce qu'il possède de plus, en lui et hors de lui, capacité, talent, richesse, ne paraît que des accessoires. Figure-toi maintenant un bourgeois qui oserait montrer quelques prétentions à ses avantages. Il échouerait complètement, et il serait d'autant plus malheureux que la nature lui aurait donné plus d'aptitude et de penchant pour cette manière d'être. Si le gentilhomme ne connaît aucune limite dans la vie ordinaire, si l'on peut faire de ses pareils des rois et des princes, il peut se présenter partout devant ses égaux avec une confiance tranquille. Il peut se pousser partout en avant, tandis que rien ne sied mieux au bourgeois que le sentiment juste et secret de la ligne de démarcation qui est tracée devant lui. Il ne doit pas se dire « Qui es-tu ?» mais seulement « Qu'as-tu ? Quelle capacité, quelle connaissance, quel talent, quelle fortune ?» Si le gentilhomme a tout donné, quand il a produit sa personne, le bourgeois, en produisant la sienne, ne donne rien et ne doit rien donner. L'un peut et doit paraître, l'autre doit être seulement. Et s'il veut paraître, il est absurde et ridicule. L'un doit agir et influer, l'autre travailler et produire. Il doit développer des facultés isolées pour devenir utile, et c'est une chose d'avance entendue, qu'il ne doit et ne peut exister dans son être aucune harmonie. Car pour se rendre utile d'une certaine façon, il doit négliger tout le reste. Cette différence, il ne faut point en accuser l'arrogance des nobles et la condescendance des bourgeois, mais la constitution de la société. De savoir si jamais on changera quelque chose à cela, et ce qu'on y changera, je m'en inquiète peu. Dans l'état actuel des choses, je dois, sans plus, songer à moi et chercher le moyen de me sauver moi-même et d'obtenir ce qui est pour moi un indispensable besoin. Enfin, j'aspire avec une inclination irrésistible à cette culture harmonique de mon être que ma naissance me refuse. Depuis que je t'ai quitté, j'ai beaucoup gagné par les exercices de corps. Je me suis défait en grande partie de ma gaucherie ordinaire, et je me présente assez bien. J'ai cultivé mon langage et ma voix, et je puis dire sans vanité que je ne déplais pas dans le monde. Maintenant, je ne te cacherai pas que je sens chaque jour un désir plus impérieux de paraître en public, de plaire et d'agir dans une sphère plus étendue. À cela s'ajoute mon inclination pour la poésie et pour tout ce qui s'allie avec elle, et le besoin de cultiver mon esprit et mon goût, afin que dans la jouissance même dont je ne puis me passer, je m'accoutume par degrés à ne considérer comme bon et comme beau que ce qu'il est en effet. Tu le vois bien, mon ami, je ne puis trouver tout cela que sur le théâtre. C'est le seul élément dans lequel je puisse me mouvoir et me développer à mon gré. L'homme cultivé paraît, avec son éclat personnel sur le théâtre, aussi bien que dans les classes supérieures. Là, dans toute action, l'esprit et le corps doivent marcher du même pas. Là, je puis être et paraître aussi bien qu'en aucun lieu du monde. Si je veux à côté de cela des occupations, j'y trouverai bien assez de tracasseries matérielles, et j'aurai chaque jour de quoi exercer ma patience. Ne dispute pas avec moi là-dessus, car avant que tu puisses m'écrire, le pas sera fait. Par égard pour les préjugés dominants, je changerai de nom. Je rougirai d'ailleurs de me présenter sous celui de Meister. Notre fortune est en si bonne main que je n'en prends aucun souci. Je te demanderai dans l'occasion ce dont j'aurai besoin. Ce sera peu de chose, car j'espère que mon talent me fera vivre. La lettre était à peine expédiée que Wilhelm tint sa parole, et, à la grande surprise de Serlot et des autres, il déclara tout à coup qu'il se vouait au théâtre et qu'il était prêt à signer un engagement à des conditions équitables. On fut bientôt d'accord. Serlot avait déclaré d'avance que Wilhelm et ses camarades seraient contents. Toute la malheureuse troupe qui nous a occupés si longtemps fut reçue à la fois, sans qu'un seul membre, excepté Laerte, en témoigna de la reconnaissance à notre ami. Comme ils avaient demandé sans confiance, ils reçurent sans gratitude. La plupart aimèrent mieux attribuer leur admission à l'influence de Philine, et ce fut à elle qu'ils adressèrent leurs remerciements. On en vint à la signature des engagements, et par une inexplicable association d'idées, au moment où Wilhelm écrivait son nom supposé, il se rappela soudain la place de la forêt où il était blessé, couché sur le sein de Philine. La belle Amazone sortit du bois, montée sur son cheval blanc. Elle s'approcha de lui et mit pied à terre. Elle allait et venait avec une ardeur compatissante. Enfin, elle s'arrêta devant lui, le manteau tomba de ses épaules, son visage, toute sa personne, resplendit. Puis elle disparut. Il écrivit son nom machinalement, sans savoir ce qu'il faisait, et ne s'aperçut qu'après avoir signé que Mignon était à son côté, qu'elle le tenait par le bras et avait essayé doucement d'arrêter sa main. Chapitre 4. Une des conditions auxquelles Wilhelm entrait au théâtre lui avait été accordée par Serlot, mais non sans restriction. Notre ami désirait qu'Hamlet fût joué tout entier et sans coupure. Serlot promit de satisfaire à cette singulière demande pour autant qu'il serait possible. Ils avaient eu jusqu'alors à ce sujet plusieurs débats, car sur ce qui était possible ou ne l'était pas, et sur ce qu'on pouvait retrancher de la pièce sans la mutiler, ils étaient d'avis très différents. Wilhelm était encore à l'âge heureux où l'on ne saurait concevoir que la femme adorée, que le poète admiré, puisse avoir le moindre défaut. Le sentiment qu'il nous inspire est si entièrement d'accord avec lui-même que nous sommes conduits à voir en eux aussi cette complète harmonie. Serlot, en revanche, décomposait volontiers, et peut-être à l'excès. Son coup d'œil pénétrant ne voyait d'ordinaire dans une œuvre d'art qu'un tout plus ou moins imparfait. Il croyait qu'on avait peu de motifs de laisser scrupuleusement les pièces comme on les trouvait, et Shakespeare lui-même, et particulièrement Hamlet, eut beaucoup à souffrir. Wilhelm ne voulait rien entendre quand Serlot parlait de séparer la balle du grain. « Ce n'est pas la balle et le grain confondus ensemble, » s'écriait-il. « C'est un arbre avec sa tige, ses branches, ses rameaux, ses feuilles, ses boutons, ses fleurs et ses fruits. Une chose n'est-elle pas unie avec l'autre ou produite par elle ?»
Serlot répondait qu'on ne servait pas sur la table l'arbre tout entier, que l'artiste devait offrir à ses convives des pommes d'or dans des plats d'argent. Ils s'épuisaient tous deux en comparaison, et leurs opinions semblaient de plus en plus divergentes. Notre ami fut sur le point de désespérer, lorsqu'un jour, après un long débat, Serlot lui proposa le moyen le plus simple. C'était de se résoudre promptement, de prendre la plume et de biffer dans la pièce ce qui ne pouvait passer, de grouper plusieurs personnages en un, que, s'il n'avait pas encore l'habitude nécessaire ou si le courage lui manquait, il n'avait qu'à lui abandonner la besogne. Elle serait bientôt faite.
« Cela n'est pas conforme à notre convention, » répliqua Wilhelm. « Avec tant de goût, comment pouvez-vous être si léger ?»«
Mon ami, » répondit-il, « bientôt vous le deviendrez aussi. Je ne connais que trop cette abominable méthode, qui peut-être n'a régné encore sur aucun théâtre du monde. Mais aussi en est-il un moins surveillé que le nôtre. Ce sont les auteurs qui nous obligent à cette mutilation dégoûtante. » Et le public la permet. Combien de pièces avons-nous qui restent dans la mesure du personnel, des décorations et des machines, du temps, du dialogue et des forces physiques de l'acteur? Et cependant, il nous faut jouer, jouer toujours et toujours des pièces nouvelles. D'ailleurs, ne devons-nous pas nous servir de nos avantages, puisque nous réussissons aussi bien avec des pièces mutilées qu'avec des pièces entières? Le public lui-même nous encourage. Ils sont rares en Allemagne, rares peut-être en tout pays, les hommes du goût qui sentent la beauté d'un ensemble. On loue et l'on critique des détails. On ne s'extasie que sur des détails. Et qui doit s'en féliciter plus que le comédien? Puisque, après tout, le spectacle n'est jamais qu'une œuvre de compilation et de bigarrure.
Aujourd'hui, répliqua Wilhelm. Mais faut-il donc qu'il en soit toujours ainsi? Tout doit-il absolument demeurer ce qu'il est? Ne me persuadez pas que vous ayez raison, car aucune puissance au monde ne saurait m'obliger à respecter une convention que j'aurais signée dans la plus monstrueuse erreur.
Serlot donna à la chose une tournure badine et pria Wilhelm de méditer encore tout ce qu'ils avaient dit ensemble sur Hamlet, et de chercher lui-même le moyen de le remanier heureusement. Au bout de quelques jours passés dans la solitude, Wilhelm revint avec un air joyeux.
« Je me trompe fort, » dit-il, « ou j'ai trouvé le moyen d'obtenir plus d'ensemble. Je suis persuadé que Shakespeare lui-même aurait fait comme cela, si son génie ne s'était pas si fortement préoccupé de l'objet principal. » Et n'avait pas été entraîné, peut-être, par les nouvelles d'après lesquelles il travaillait.
« Parler ?» lui dit Serlot en s'asseyant d'un air grave sur le canapé. « J'écouterai tranquillement, mais pour juger avec d'autant plus de sévérité. »«
Je ne crains rien, » reprit Wilhelm. « Écoutez seulement. Après l'examen le plus attentif, après les réflexions les plus mûries, je distingue deux choses dans ce poème. D'abord, les grands et intimes rapports des personnes et des événements, les puissants effets qui naissent des caractères et de la conduite des personnages principaux. Ces effets pris à part sont excellents, et l'enchaînement dans lequel ils sont présentés ne saurait être meilleur. Il n'est pas de remaniement qui puisse les détruire, à peine les défigurer. Ce sont là des choses que chacun veut voir, sur lesquels personne n'ose porter la main, qui se gravent profondément dans les âmes et qu'on a, dit-on, produites, presque sans exception, sur les scènes allemandes. Seulement, on s'est trompé, je crois, en ce qu'on a considéré comme trop insignifiant le second objet qu'il faut considérer dans cette pièce. je veux dire les rapports extérieurs des personnages, qui les font passer d'un lieu dans un autre ou qui les unissent entre eux, de telle ou telle manière, par certains événements accidentels. Ces choses, on ne les a mentionnées qu'en passant, ou même on les a complètement rejetées. Sans doute, ces fils sont légers et flottants, mais ils traversent la pièce tout entière et lient ensemble les parties, qui sans cela tomberaient dispersées et qui se dispersent réellement quand on coupe ces liens et que l'on pense avoir tout fait en laissant subsister les extrémités. Parmi ces événements étrangers, je range les troubles de Norvège, la guerre avec le jeune Fortinbras, l'ambassade aux vieux oncles, l'apaisement de la querelle, l'expédition du jeune Fortinbras en Pologne et son retour, le retour d'Horatio de Wittenberg, le désir d'Hamlet d'y aller à son tour, le voyage de Laërte en France, son retour, le départ d'Hamlet pour l'Angleterre, sa captivité chez le pirate, la mort des deux courtisans porteurs de la lettre perfide. Tout cela sont des circonstances et des événements qui peuvent allonger un roman, mais qui sont extrêmement défectueux et singulièrement nuisibles à l'unité d'une pièce, où le héros agit d'ailleurs sans dessein suivi. « Voilà comme j'aime à vous entendre parler !» s'écria Serlot. « Ne m'interrompez pas, vous pourrez bien ne pas m'approuver jusqu'au bout. Ces défauts sont comme les appuis volants d'un édifice, que l'on ne doit pas enlever avant d'avoir construit par-dessous un mur solide. Mon projet est donc ne pas toucher à ces grandes situations dont je vous ai parlé d'abord, et au contraire, de les respecter autant que possible dans l'ensemble et les détails. Mais d'élaguer d'un seul coup tous ces incidents extérieurs, isolés, qui sont dispersés et qui dispersent l'attention, et de leur en substituer un seul. « Et ce serait ?» demanda Serlot en sortant soudain de son attitude tranquille. « Il est déjà dans la pièce, » reprit Wilhelm, « mais j'en fais l'usage convenable. Ce sont les troubles de Norvège. Voici le plan que je vous soumets. Après la mort du vieil Hamlet, les Norvégiens, nouvellement conquis, s'agitent. Le gouverneur du pays envoie en Danemark son fils Horatio, ancien ami de collège du jeune Hamlet, qui surpassait tous les autres en courage et en sagesse. Il vient presser l'armement de la flotte, qui n'avance que lentement sous le nouveau roi, plongé dans les plaisirs. Horatio a connu le vieux roi, car il a pris part à ses dernières batailles. Il était en faveur auprès de lui, et la première scène du spectre n'y perdra rien. Le nouveau roi donne audience à Horatio et envoie Laërte en Norvège pour annoncer la prochaine arrivée de la flotte. Horatio est chargé d'en accélérer l'équipement. Mais la reine-mère ne consent pas à ce que Hamlet, qui le désirait, s'embarque avec son ami. « Dieu soit loué !» s'écria Serlot. « Nous sommes aussi délivrés de Wittenberg et de l'université, qui était une fâcheuse pierre d'achoppement. Je trouve votre idée très bonne, car, à l'exception de deux objets lointains, la Norvège et la flotte, le spectateur n'a rien à se figurer. Il voit tout le reste passe devant ses yeux, tandis qu'autrement, son imagination devrait se promener dans le monde entier. « Vous voyez facilement, » reprit Wilhelm, « comme je puis maintenant relire aussi tout le reste. Lorsqu'Hamlet découvre à Horatio le crime de son père, son ami lui conseille de le suivre en Norvège, de s'assurer de l'armée et de revenir les armes à la main. Hamlet étant devenu trop dangereux au roi et à la reine, ils n'ont pas de meilleur moyen pour se délivrer de lui que de l'envoyer sur la flotte et de lui donner pour espion Rosencrantz et Guldenstern. Et Laërte étant revenu dans l'intervalle, ce jeune homme, fanatisé jusqu'au meurtre, est dépêché auprès le prince pour l'assassiner. La flotte est retenue par les vents contraires. Hamlet revient encore. On peut, je crois, motiver heureusement son passage à travers le cimetière, Sa rencontre avec Laërte au tombeau d'Ophélie est un ressort indispensable. Là-dessus, le roi peut juger qu'il vaudrait mieux se débarrasser d'Hamlet sur le champ. On célèbre solennellement la fête du départ et la réconciliation apparente du prince et de Laërte. Un tournoi est ouvert, Hamlet et Laërte se mesurent ensemble. Je ne puis terminer la pièce sans mes quatre morts. Pas un ne doit survivre. Le peuple recouvre son droit d'élection et Hamlet, mourant, donne sa voix à Horatio.
Vite à l'ouvrage, dit Serlot, et allez jusqu'au bout. L'idée a toute mon approbation. Mais ne laissez pas votre ardeur s'en aller en fumée.
Chapitre 5. Wilhelm s'était occupé depuis longtemps d'une traduction d'Hamlet. Il s'était servi à cet effet de l'ingénieux travail de Wieland, par lequel il avait appris d'abord à connaître Shakespeare. Il rétablit les passages supprimés et il se trouva de la sorte en possession d'un exemplaire complet, au moment où il venait de s'accorder si bien avec Serlot sur le remaniement. Alors, il se mit à retrancher et interpoler, à séparer et réunir, à changer et souvent à restituer. Car, si satisfait qu'il fût de son idée, il lui semblait toujours, dans l'exécution, qu'il ne faisait que gâter l'original. Aussitôt qu'il eut achevé, il lut son travail à Serlot et à la troupe. Ils s'en montrèrent fort satisfaits, et surtout Serlot, qui fit quelques réflexions favorables. « Vous avez parfaitement senti, dit-il entre autres choses, que des circonstances étrangères accompagnent la pièce, mais qu'elles doivent être plus simples que le grand poète ne nous les a montrées. Ce qui se passe hors du théâtre, ce que le spectateur ne voit pas, ce qu'il doit se représenter, est comme un fond devant lequel se meuvent les personnages. La grande et simple perspective de la flotte et de la Norvège produira pour la pièce un très bon effet. Si on la retranchait, il ne resterait plus qu'une scène de famille, et la grande idée que toute une race royale périt par des crimes et des désordres intérieurs ne serait plus représentée avec la dignité nécessaire. Mais, si le fond du tableau restait bigarré, mobile, confus, cela nuirait à l'effet des figures. Wilhelm prit de nouveau la défense de Shakespeare et montra qu'il avait écrit pour des insulaires, pour des Anglais, qui sont accoutumés à voir, comme fond du tableau, des vaisseaux et des voyages sur mer, les côtes de France et des corsaires, et il fit sentir que ces choses, tout à fait ordinaires pour eux, suffisent déjà pour nous distraire et nous troubler. Serlot dut en convenir, et tous deux s'accordèrent à reconnaître que, la pièce devant être jouée sur la scène allemande, ce fond, plus sérieux et plus simple, était le plus convenable à notre génie. On avait déjà distribué les rôles. Serlot avait pris celui de Polonius, Aurélie celui d'Ophélie, le nom de Laërte lui désignait le sien. Un jeune débutant, aux allures vives, à la taille ramassée, fut chargé de jouer Horatio. Le roi et le spectre causèrent seuls quelque embarras. On n'avait pour ces deux rôles que le vieux bourru. Serlot proposait le pédant pour jouer le roi. Wilhelm protestait de toutes ses forces contre un pareil choix. On ne pouvait en finir. Wilhelm avait d'ailleurs laissé subsister dans sa pièce les deux rôles de Rosencrantz et de Guldenstern. « Pourquoi ne les avez-vous pas fondus en un seul ?» lui demanda Serlot. « Cette abréviation serait bien facile. »«
Dieu me garde d'abréger ainsi !» répliqua Wilhelm. « Ce serait détruire à la fois le sens et les faits. Ce que sont et ce que font ces deux hommes, un seul ne peut le représenter. On retrouve dans ces petits détails la grandeur de Shakespeare. » Cet abord insinuant, ses complaisances et ses révérences, cette servilité, ses flatteries et ses cajoleries, cet empressement, ses manières rampantes, cette ubiquité, cette inanité, cette franche fourberie, cette incapacité, comment un seul homme les pourrait-il exprimer?
Il en faudrait au moins une douzaine si l'on pouvait les avoir. Car ils ne sont quelque chose qu'en société. Ils sont la société. Et Shakespeare a montré bien de la modération et de la retenue de n'en avoir produit que deux représentants. D'ailleurs, il me faut ce couple dans mon remaniement pour contraster avec l'unique, l'excellent Horatio.
« Je vous comprends, » dit Serlo, « et nous trouverons un expédient.
Je donnerai un de ces rôles à Elmire. »
C'était la fille aînée du bourru. « Il n'y a pas de mal à ce que c'est drôle et bonne mine, et je veux si bien parer et dresser mes poupées qu'elles feront plaisir à voir. »
Philine était ravie de faire la duchesse dans la petite comédie. « Je représenterai au naturel, » disait-elle. « Comme on se dépêche d'épouser un second mari, après avoir aimé le premier d'un amour extraordinaire. J'espère obtenir le plus grand succès, et tous les hommes souhaiteront d'être mon troisième. »
Aurélie parut choquée de ces propos. Son aversion pour Philine augmentait tous les jours.
« C'est bien dommage, » dit Serlot, « que nous n'ayons point de ballet. Vous auriez dansé un pas de deux avec votre premier et avec votre second mari. Le vieillard s'endormirait à la cadence, et vos pieds mignons et vos jolis mollets produiraient un effet délicieux sur le théâtre enfantin.
« Pour mes mollets, » répliqua-t-elle d'un air dédaigneux, « vous n'en savez pas grand-chose, et quant à mes pieds mignons, » dit-elle, en portant lestement la main sous la table pour ôter ses mules qu'elle plaça côte à côte devant Serlot. « Voici les supports, et je vous défie d'en trouver de plus jolis. »
« En vérité, » dit-il en considérant les élégants demi-souliers, « on ne trouverait pas facilement quelque chose de plus coquet. »
Ses pantoufles venaient de Paris. Philine les avait reçues en cadeau de la comtesse, dont le joli pied était célèbre.
« Objet ravissant !» reprit Serlot. « De les voir, le cœur me bat. »«
Quelle extase !» dit Philine.
« Non, il n'est rien au-dessus d'une paire de pantoufles d'un travail si fin et si beau. Mais le bruit qu'elles font est encore plus ravissant que la vue. »
Serlot les souleva et les laissa retomber plusieurs fois, tour à tour sur la table.
« Que signifie cela? Rendez-les-moi » s'écria Philine.
« Oserais-je le dire ? » reprit-il avec une réserve affectée et une gravité badine. « Nous autres garçons, qui sommes le plus souvent seuls la nuit, et qui cependant avons peur comme les autres hommes, et soupirons dans les ténèbres après une compagnie, surtout dans les auberges et les lieux étrangers, où l'on n'est pas trop en sûreté. Nous sommes bien tranquillisés quand une charitable enfant vient nous assister et nous tenir compagnie. Il est nuit, on est couché, il se fait un léger bruit, on tressaille, la porte s'ouvre, on reconnaît une chère petite voix chuchotante. Quelque chose s'avance, les rideaux frémissent, clic-clac, les pantoufles tombent, et preste, on n'est plus seul. Ah, ce bruit charmant, unique, des petits talons qui résonnent sur le parquet. Plus ils sont délicats, plus le bruit est léger. Que l'on me parle de Philomèle, de ruisseaux murmurants, du vent qui soupire et de tout ce qu'on a hurlé et sifflé, je m'en tiens à clic-clac, clic-clac, est le plus joli thème pour un rondeau, et l'on voudrait l'entendre recommencer toujours. »
Philine lui arracha les pantoufles des mains.
« Comme je les ai déformées, dit-elle, elles sont beaucoup trop larges pour moi. »
Puis elle frotta en jouant les semelles l'une contre l'autre.
« Comme ça s'échauffe !» s'écria-t-elle en approchant une semelle de sa joue. Elle la frotta encore et la tendit à Serlot. Il eut la bonhomie d'avancer la main pour sentir la chaleur et « clic-clac !» s'écria-t-elle en lui donnant une bonne tape avec le talon, si bien qu'il retira la main en poussant un cri.
« Je vous apprendrai !» dit-elle en riant, « à raisonner autrement sur mes pantoufles. »«
Et je t'apprendrai à traiter les barbons comme des enfants !» s'écria Serlot, qui se leva soudain, la saisit vivement et lui déroba main baisée,
qu'elle sut habilement se laisser ravir, tout en opposant une sérieuse résistance. Dans la lutte, les longs cheveux de Philine se dénouèrent sur ses épaules et s'enroulèrent autour des combattants. La chaise tomba, et Aurélie, choquée de cette scène indécente, quitta la pièce avec indignation. Chapitre 6. Plusieurs personnages d'Hamlet avaient disparu dans le remaniement, mais le nombre en était encore assez grand, et la troupe semblait ne pouvoir y suffire. « Je commence à croire, dit Serlot, que notre souffleur devra lui-même sortir de son trou, se mêler parmi nous et devenir un personnage. » « Je l'ai souvent admiré dans ses fonctions, dit Wilhelm. Je ne crois pas, dit Serlot, qu'il existe un souffleur plus accompli. Nul spectateur ne l'entend jamais, et nous, sur la scène, nous saisissons chaque syllabe. Il s'est fait en quelque sorte un organe particulier, et il est comme un génie qui nous fait entendre au besoin un murmure intelligible. Il devine quelle partie de son rôle l'acteur possède parfaitement et prévoit de loin quand la mémoire lui manquera. En certaines occasions, que j'avais eu à peine le temps de parcourir mon rôle et qu'il me l'a soufflé d'un bout à l'autre, je l'ai joué avec succès. Il a cependant quelques singularités qui rendraient incapable tout autre que lui. Il prend un intérêt si véritable aux pièces qu'on joue que, sans déclamer précisément les passages pathétiques, il les lit avec émotion. Par cette mauvaise habitude, il m'a égaré assez souvent. Et, par une autre singularité, dit Aurélie, il me laissa un jour dans l'embarras, au milieu d'un endroit très difficile.
Puisqu'il est si attentif, comment cela s'est-il pu faire ? Demanda Wilhelm.
Il est si ému dans certains passages, répondit Aurélie, qu'il fond en larmes et perd contenance pour quelques instants, et ce ne sont pas proprement les endroits qu'on appelle touchants qui le mettent dans cet état. Ce sont, pour essayer de rendre clairement ma pensée, les beaux passages où le pur génie du poète brille comme un regard de son œil étincelant, ces passages qui nous charment le plus et que la foule ne remarque point.
Avec une sensibilité si vive, pourquoi ne paraît-il pas sur le théâtre?
Un organe rauque, une contenance embarrassée, l'exclut de la scène, répondit Serlot, et son humeur triste l'éloigne de la société. Quelle peine ne me suis-je pas donnée pour l'apprivoiser? Peine inutile. Il lit parfaitement, comme je n'ai jamais entendu lire. Nul n'observe comme lui la ligne délicate qui sépare la déclamation de la lecture animée.
« Il est trouvé !» s'écria Wilhelm.
« Il est trouvé ! Quelle heureuse découverte ! Nous avons l'acteur qui pourra nous lire le passage du farouche Pyrrhus. »
« Il faut avoir votre passion, reprit Serlot, pour faire tout concourir à son but. »
En vérité, je craignais fort qu'il ne fallût peut-être supprimer cet endroit, et toute la pièce en aurait souffert.
« J'en doute un peu, » dit Aurélie.
« J'espère que vous serez bientôt de mon avis, » dit Wilhelm.
« Shakespeare a un double but en produisant les comédiens de passage. L'homme qui déclame, avec une émotion si singulière, la mort de Priam, fait sur Hamlet lui-même une impression profonde. » Il stimule la conscience du jeune prince, qui hésite encore. Et par là, cette scène est le prélude de celle dans laquelle le petit spectacle produit sur le roi un si grand effet. Hamlet se sent humilié par le comédien, qui prend une si grande part à des douleurs fictives, étrangères. Et cela lui suggère aussitôt l'idée de faire une tentative pareille sur la conscience de son beau-père.
Quel magnifique monologue que celui qui termine le second acte! Que j'aurai de plaisir à le réciter!
Oh, quel misérable, quel vil esclave je suis! N'est-ce pas monstrueux que ce comédien, par une fiction, par le rêve d'une passion, tourmente son âme à son gré au point que la pâleur couvre son visage?
Des yeux en pleurs, des gestes égarés, une voix brisée, tout son être possédé d'un seul sentiment. Et tout cela pour rien? Pour Hécube? Hécube! Qu'est-elle pour lui, ou lui pour Hécube, pour qu'elle fasse couler ses pleurs?
Pourvu, dit Aurélie, que nous puissions décider notre homme à paraître sur la scène.
Nous l'y amènerons par degrés, dit Serlot.
Dans les répétitions, je lui ferai lire le rôle, et nous dirons que nous attendons un acteur qui doit le jouer. Nous verrons ensuite comment nous pourrons venir à bout de lui.
Lorsqu'ils furent d'accord sur ce point, ils parlèrent du spectre. Wilhelm ne pouvait se résoudre à confier au pédant le rôle du roi vivant, afin que le bourru pût jouer le fantôme. Et son avis était d'attendre plutôt l'arrivée de quelques acteurs qui s'étaient annoncés et parmi lesquels pourrait se trouver l'homme qu'il fallait. On peut donc juger combien Wilhelm fut surpris lorsqu'il trouva, le soir, sur sa table, à l'adresse de son nom de théâtre, ce billet cacheté, écrit en caractères fantastiques.
Nous savons, ô singulier jeune homme, que tu es dans un grand embarras. Tu trouves à peine des hommes pour ton Hamlet, bien loin de trouver des esprits. Ton zèle mériterait un miracle. Nous ne pouvons en faire, mais il arrivera quelque chose de merveilleux. Si tu as confiance en nous, le spectre paraîtra à l'heure voulue. Prends courage et sois tranquille. Il n'est pas nécessaire que tu répondes. Ta résolution nous sera connue.
Wilhelm courut avec cet étrange billet chez Serlot, qui le lut et relut, et assura enfin, d'un air significatif, que l'affaire était de conséquence, qu'il fallait considérer mûrement si l'on pouvait et si l'on devait risquer la chose. Ils débattirent longtemps la question. Aurélie gardait le silence et souriait par moments. Et quelques jours après, comme on vint encore à parler de l'affaire, elle fit entendre assez clairement qu'elle la regardait comme une plaisanterie de son frère. Elle dit à Wilhelm qu'il pouvait être parfaitement tranquille et attendre patiemment le fantôme.
Serlot était de fort bonne humeur. Les acteurs qui devaient partir redoublaient de zèle pour se faire regretter, et la curiosité excitée par les nouveaux comédiens lui promettait d'ailleurs d'excellentes recettes. La société de Wilhelm avait même exercé sur lui quelque influence. Il commençait à parler un peu plus de l'art, car enfin, il était allemand, et les Allemands aiment à se rendre compte de ce qu'ils font. Wilhelm mit par écrit quelques-uns de ses entretiens, mais comme nous ne pouvons interrompre si souvent le récit, nous donnerons, dans une autre occasion, ses essais dramaturgiques à ceux de nos lecteurs qu'ils peuvent intéresser. Un soir, surtout, Serlot se montra fort gai, en parlant du rôle de Polonius, tel qu'il se proposait de le rendre. « Je promets, disait-il, de vous régaler cette fois d'un digne personnage. Je saurai faire, en temps et lieu, le plus bel étalage de calme et d'assurance, de frivolité et d'importance, de grâce et de fadeur, de liberté et de ruse, de franche friponnerie et de fausse sincérité. Je présenterai et je développerai, avec une parfaite politesse, ce demi-coquin grisonnant, candide, souffrant tout, se pliant aux circonstances. Et les coups de pinceau, un peu durs et grossiers, de notre auteur, me rendront pour cela de bons services. Je parlerai comme un livre quand je serai préparé, et comme un fou quand je serai de bonne humeur. Je serai insipide pour parler à chacun son langage, et toujours assez fin pour ne rien voir quand les gens se moqueront de moi. J'ai rarement entrepris un rôle avec autant de malice et de plaisir.
Que ne puis-je espérer autant du mien, dit Aurélie. Je n'ai pas assez de jeunesse et d'abandon pour me retrouver dans le caractère d'Ophélie. Je ne sais, hélas, qu'une chose, c'est que le sentiment qui égare son esprit ne me quittera jamais.
N'y regardons pas de si près, dit Wilhelm, car à vrai dire, mon désir de jouer Hamlet m'a jeté, après toute l'étude que j'ai faite de la pièce, dans la plus étrange erreur. Plus je médite ce rôle, plus je vois que je n'ai pas, dans toute ma personne, un trait de ressemblance avec le Hamlet de Shakespeare. Quand je considère comme tout se lie parfaitement dans ce rôle, j'ose à peine me flatter d'y paraître supportable.
Vous entrez dans la carrière avec de grands scrupules, lui répondit Serlot. L'acteur se plie à son rôle comme il peut, et le rôle s'accommode à lui comme il doit.
Mais comment Shakespeare a-t-il dépeint son Hamlet? Est-il donc si loin de vous ressembler?
D'abord, Hamlet est blond, répliqua Wilhelm.
C'est chercher trop loin, dit Aurélie. Quelle preuve en avez-vous?
Il est danois, il est enfant du Nord, il est de race blonde et il a les yeux bleus.
Shakespeare a-t-il pensé à cela?
Je ne vois pas qu'il le dise formellement, mais en rapprochant certains passages, la chose me paraît incontestable. Pendant le combat, il est fatigué, la sueur lui baigne le visage et la reine dit « Il est gras, laissez-le reprendre haleine. »
Eh bien, peut-on se le figurer autrement que blond et corpulent?
C'est rarement dans leur jeunesse le cas des hommes bruns. Et sa mélancolie rêveuse, sa molle tristesse, son inquiète irrésolution, ne conviennent-elles pas mieux à ce tempérament qu'à un jeune homme au corps svelte, aux cheveux bruns, duquel on attend plus de promptitude et de résolution?
Vous déroutez mon imagination, s'écria Aurélie.
Arrière, votre gras Hamlet! Ne nous représentez pas votre prince bien nourri. Offrez-nous plutôt un quiproquo qui nous plaise, qui nous touche. L'intention de l'auteur nous importe moins que notre plaisir, et nous demandons un charme qui réponde à nos sentiments.